France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Juan Arbeláez est reparti en Colombie. Ce qui est génial de la Colombie, c'est que tu manges beaucoup avec les doigts.
L'arepa es una especie de pan preparado con maíz.
Au bout de quelques mois, grâce à Juan, j'ai commencé à parler un espagnol de puta madre.
Vous ne faites jamais d'arriaco à Paris?
La vaina, c'est comme no tenemos.
Non, en fait, il n'y a pas de guasca. Et la coriandre est un peu différente.
Et
on n'arrive pas à trouver du bon maïs. Et puis, j'avais pas de pommes de terre criolla. En France, il y en a une qui s'appelle grenaille.
Elle est similaire?
Non, c'est exactement la
même. Donc, elle ne donne pas la même texture à l'arriaco.
Empanadas
végétariennes, empanadas au volaille.
Empanadas colombianas.
Hola a todos, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster un peu de chaleur dans nos cœurs et nos estomacs aujourd'hui, avec une escale gourmande dans un pays d'Amérique latine qui n'est pas forcément le plus connu en termes de cuisine, mais qui offre pourtant un répertoire haut en saveur et très fort en goût, c'est la Colombie. Et c'est le pays natal d'un chef qui fait des étincelles depuis pas mal d'années sur la scène gastronomique française, Juan Arbeláez, bonjour.
Bonjour, merci.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Ça va très bien, on est très heureux de vous avoir, cher Juan, à nos côtés, d'autant que vous sortez Recuérdame, c'est le titre du carnet de cuisine de Colombie que vous signez aux éditions First. On est tous sous le charme de ce bouquin qui est tout simplement magnifique, qui parle aussi évidemment à vos racines, hein. Recuérdame, ça veut dire quoi en espagnol?
Ça veut dire souviens-toi de moi.
Souviens-toi de moi, ben, on va se souvenir de vous. La lecture de votre livre, qui est une espèce de retour au pays, très émouvant, avec des recettes alléchantes, des textes touchants, écrits par votre sœur Guadalupe, c'est ça?
Exactement.
Et des prises de vue, de recettes et de reportages signés par un ami à vous qu'on connaît sous le nom de photographe du dimanche.
Bah oui, bien sûr, pardon, excusez-moi, non, Guillaume Savary, je savais pas s'il fallait que je donne le vrai ou le faux.
Non, photographe du dimanche, c'est un peu son nom de scène.
C'est son nom de scène, c'est un petit coquin, c'est vrai qu'il a commencé à faire des photos que le dimanche, et finalement aujourd'hui, le seul jour où il fait pas de photos, c'est dimanche. Mais il a gardé quand même ce surnom assez intéressant, et c'est vrai que c'est un gars qui a un talent exceptionnel pour capter la gourmandise d'une assiette.
Bah, il nous fait partager votre food trip, votre retour aux sources en Colombie de manière lumineuse et très alléchante. De Bogota à Carthagène en passant par Medellin, vous allez nous faire déguster de très belles recettes relevées, ensoleillées. Allez, juste un petit avant-goût parce que vous êtes en plus très généreux comme garçon dans la vie.
C'est vrai qu'on m'a dit de venir avec une ou deux recettes, j'en ai ramené 14. On a... je sais pas faire autrement. C'est une générosité colombienne. On va goûter les empanadas qui sont en train de crépiter là-bas,
ouais,
tranquillement.
Ça grillote sur la plaque de cuisson de l'émission.
Exactement, ça va être croustillant à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. Les sauces avec lesquelles on accompagne presque toutes les recettes colombiennes. On a les salsa aquí, on a cette ají de maní, sauce à base de cacahuètes. On a également les panes yucas qui sont ces...
Vous en dites trop
pains. Ah pardon, excusez-moi.
Non, c'est bien, mais il faut
yucas,
faire saliver, c'est bien.
Ceviche des crevettes,
bon,
bref.
Vous avez compris qu'il y en a partout, du citron vert et des saveurs très caractérielles sur tout le plateau dont on va déguster. Elles font partie de notre voyage en Colombie, ce sont nos chroniqueuses, Elvira Masson et Justine Knapp. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et toutes.
Elvira.
Il va être question d'un livre qui traite de remèdes culinaires à la tristesse, bien qu'on n'en ait pas forcément besoin avec Juan en plateau.
Et je suis sûr que Juan en a entendu parler. Justine.
Je vais vous faire goûter une boisson de saison, juteuse, digestive, revigorante, mais j'en dis pas plus pour l'instant.
On va se régaler. Des questions ou des souvenirs de voyage en Colombie, envoyez-nous un mail, on va degustatradiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Retrouvez nos émissions en ligne avec tout leur contenu, adresse, chronique, recette, info pratique, franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Fidèle à notre tradition, on commence par une petite surprise gourmande que vous allez déguster à l'aveugle. J'ai versé dans vos gobelets une boisson. Dites-moi ce que vous en pensez. Juan revient au micro, il est entre la plaque de cuisson et le micro. Le temps de goûter, c'est une boisson chaude. Allez, je vous aide, on peut même parler d'une infusion.
Mais
une infusion de quoi, avec quel goût? Juan.
Pardon, je fais un peu le rétrospectif. Ouais. C'est un peu chaud. Ça me fait penser à... Oui, une infusion, un thé, mais sans thé.
Ouais.
Est-ce qu'on serait pas... Alors, j'ai des notes qui me font penser un peu à un rooibos.
Ouais, ben, je pense la même chose.
Ouais. Alors, c'est pas du rooibos, mais tout le monde le confond souvent avec ce thé rouge d'Afrique du Sud, le rooibos. Okay. Ce n'est pas du rooibos, mais il y a effectivement ces notes un peu fruits rouges, un peu acidulés.
Café.
Oui, tout...
C'est une infusion de café, c'est
Est-ce que c'est pas l'épaule à cascara des cafés?
Oh là là, ça, il a pillé le match. Bon,
je suis désolé.
Bah, il a pillé le match.
Je suis désolé.
J'allais dire la même chose.
Il fallait que je fasse attendre un peu.
Il a pillé le match.
Je suis désolé.
Vous aimez ou pas, Lyra et Justine?
C'est délicat.
En fait, je suis désolé, j'ai parlé trop vite. C'est juste que,
au contraire.
Je vais vous dire quelque chose. J'en ai chez moi. J'en consomme une fois par semaine. C'est la cascara.
Et c'est la cascara. Racontez-nous ce que c'est, Juan.
Bah, la cascara, c'est la peau du café.
Bravo.
Et c'est en général, on l'a jetée en Colombie. On l'utilisait juste pour que dans la terre, elle revienne. Une espèce d'engrais. On
Exactement.
Faisait fermenter, on s'en servait comme engrais. Et un jour, une fois que cette fermentation a été faite, quelqu'un a fait une infusion. Et moi, ça me fait penser. Alors, il y a cette note de rooibos, mais je la compare aussi souvent à l'hibiscus.
Bravo. Hibiscus, il y en a qui parlent aussi de cranberry, toute cette famille en fait de produits un peu acidulés.
Même la cerise, quelque chose de vraiment charnu. Et moi, je la connais froide, cette infusion.
Ouais.
Et là, on a vraiment l'explosion aromatique qui se révèle. Je trouve que c'est vraiment délicieux pour l'été aussi.
Avec une légère acidité, très plaisante. Ouais.
Et vous allez voir, une infusion fort intéressante pour plusieurs raisons. Bah, d'abord, la cascara. Alors effectivement, c'est Juan en même temps. Bon, il est colombien. Hein.
Je ferai jouer plus le jeu la prochaine fois.
La cascara, c'est plus spécifiquement la pulpa del café. Donc c'est vraiment la pulpe séchée du fruit du caféier. Et ça ressemble effectivement à des petits copeaux comme ça, fins et marrons. Alors, juste pour le processus, quand on récolte le café, on ramasse des petites baies rouges qu'on appelle les cerises de café. Et pour récupérer les grains de café qui sont à l'intérieur, on procède à ce que l'on appelle le dépulpage. On sépare le grain de l'enveloppe du café. Et c'est en janvier 2022 que la distribution de la cascara a enfin été autorisée, car figurez-vous que ça a été considéré jusqu'à maintenant comme un déchet, un ingrédient dont la commercialisation fut longtemps interdite, comme un déchet impropre à la consommation. Alors qu'en fait, on se rend compte que quand elle est bien transformée et bien traitée, évidemment, celle-ci est naturelle, sans aucun intrant. J'ai mis un grand coup dans le... Je vais me calmer un peu. Hein. J'ai mis un grand
c'est
coup
le café,
dans la table.
Ça.
C'est le café.
Oui, parce que ce que j'allais vous dire, ce que vous allez vous dire, c'est que son infusion est très très riche.
En polyphénol.
J'en bois depuis ce matin, 7h. Je tiens pas sur ma chaise. Elle a également des vertus drainantes et digestives, cette infusion de cascara. Et une très forte teneur, même une teneur spectaculaire en antioxydants. Oui. Donc c'est vraiment un produit super intéressant. Ouais. Et en plus, c'est un produit tout à fait abordable. Alors cette cascara, elle est commercialisée un peu par pas mal de torréfacteurs. Ouais. Celle-ci en particulier, c'est le torréfacteur Lagrange, qui n'est pas le pire, je peux vous dire, puisque cette maison de torréfaction est pilotée par le meilleur ouvrier de France, torréfacteur Vincent Ballot. On est du côté du Jura. Et il importe de la cascara d'une très bonne ferme du Costa Rica, la ferme Las Lejas, qui n'utilise aucun pesticide, évidemment. Un produit donc 100% naturel, 7 euros le paquet de 100 grammes. Hein, on y va?
Bah,
c'est
moi,
délicieux.
J'adore.
Hein.
Voilà.
J'adore.
Ah ouais. Franchement, c'est une super alternative en plus pour les gens qui n'aiment pas forcément le café, parce que tu n'as pas vraiment ce goût qui peut déranger. Pour moi, c'est du pur bonheur.
Vive le café et ses dérivés. Juan, on vous a mis ça évidemment parce que pour nous c'est l'hymne de la Colombie, d'autant que c'est un groupe colombien, hein, figurez-vous,
ouais.
qui est à l'origine de ce titre qui a été un hit planétaire.
Bonjour.
Réputation internationale du café colombien, pas forcément le café dont cette musique a été la publicité, qui est un café un peu industrialisé,
oui.
Mais il y a quand même de très très beaux crus en Colombie, hein, vous le confirmez?
Il y a des crus exceptionnels, c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance d'être une terre volcanique, une terre dans laquelle il y a eu pendant des années, des éruptions qui ont rendu notre terre très riche. On a la chance aussi d'avoir, pour comparer un peu à la Bourgogne dans le vin, des coteaux, ce qui permet une exposition parfaite pour le café et tout simplement un savoir-faire de dingue. Donc cette fermentation, il y a plein de différents, mais c'est juste formidable.
On apprend dans les premières pages de votre livre qu'il ne faut pas demander dans un lieu de dégustation en Colombie un café, mais un tinto.
Oui, alors le tinto, c'est à l'époque quand les premiers cafés étaient coulés, on avait cette infusion.
Filtre.
Ouais, c'était un café le filtre, c'était vraiment une infusion où on découvre presque des notes très très aromatiques, très exotiques dans le café qu'on n'a pas quand on fait une extraction à l'italienne, un peu serrée. Et quand on commande un café en Colombie, en général, il vient avec du lait et un petit pain à côté. Commandez le tinto si vous voulez vraiment déguster la Colombie.
Et avec, si possible, cette belle musique dans les oreilles d'une pub des années 80, devenue effectivement un hit grâce au groupe colombien Rodolfo et Su Típica.
Exactement.
C'est ça. Hein. Allez, je vous donne juste, avant de démarrer vraiment notre voyage colombien, deux infos deux actions caritatives plus particulièrement. Je vous ai parlé il y a quelques semaines de la Belle Étincelle, ce restaurant pas comme les autres situé boulevard Pasteur en Paris 15e, qui en plus de servir une bonne cuisine de bistrot, emploie en salle et en cuisine 8 CDI, porteurs de handicap, troubles du spectre de l'autisme et trisomie 21. Cette adresse solidaire a inspiré un très chouette téléfilm réalisé par Hervé Mimran avec Bernard Campan et Mélanie Doutet qui fut un beau succès d'audience sur M6 en octobre dernier. Eh bien, la fiction a rattrapé la réalité car la Belle Étincelle est en grande difficulté. Le restaurant affiche complet à quasiment tous les services, mais la Belle Étincelle a besoin d'aide pour ne surtout pas fermer et pour stabiliser son modèle économique et son modèle inclusif. Une campagne de soutien a commencé sur le site Hello Asso pour aider ce restaurant solidaire et pour l'aider à développer son modèle. Vous pouvez faire un petit geste, voire même un grand geste. Toutes les infos sur le site de l'émission. Et puis, je voulais aussi vous signaler que notre émission On va déguster s'engage pour le Téléthon. Nous sommes très heureux d'offrir à la grande tombola du Téléthon les 4 livres de notre collection On va déguster, coédité par Marabout et Radio France, dédicacés par nos soins, plus une invitation à venir assister à notre émission du dimanche dans nos studios de Radio France. Si ça avait été aujourd'hui, l'invité se serait régalé grâce à Roanne. N'hésitez pas à aller acheter des tickets de tombola pour tenter de gagner ce lot et en gagner beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de gens de la gastronomie qui se sont d'ailleurs investis dans le Téléthon. C'est sur le site star-du-milieu-solidaire.com, star et solidaire au pluriel. En régie derrière la console pour mettre en onde cette émission, Laurent Thomas, Jérôme Ragano, Fabrice Rivaud, voyage dans les marmites de la Colombie en compagnie de Juan Arbelaez. Juste après, David Walters, La vie à belle, choisi par Djoubaka. Bon appétit et bon voyage sur France Inter.
Le caldo de costilla, qui est un plat vraiment typique pareil de la région. En général, quand tu sors à 4h du mat, il fait assez froid. C'est un caldo de costilla, mais c'est, en fait, c'est un travers de bœuf.
Attaque in command. Oye, tiráis y tú.
On a juste l'os avec un peu de viande autour. Et on te fait ce petit bouillon, on appelle caldito levanta muerto, ça veut dire le bouillon qui réveille les morts. Même si t'es un peu, tu bois ce caldito et ça te réveille.
Recuérdame, carnet de cuisine de Colombie de Juan Arbelaez, et j'ai attrapé dans l'introduction de votre livre, cher Juan, cette très belle phrase. On n'est sûrement pas une puissance mondiale au sens économique ou militaire, mais on est une des plus grandes puissances de création de sourires et de gens heureux. On est un peuple honnête et travailleur qui s'acharne aujourd'hui à lutter contre un passé qui nous a laissé des cicatrices et qui nous range dans des clichés de méchants de films hollywoodiens. Bon, c'est vrai que quand on pense à la Colombie, on pense au cartel de Medellín, on pense à un certain Pablo Escobar, on pense aux faits divers des années 80, certains qui ont mon âge ont même grandi en fait avec ces frasques et ces fresques un peu terribles. Or, la Colombie est effectivement le pays du soleil, du sourire, de la bonne humeur.
C'est vrai, c'est vrai que cuisine. On a un passé qui est compliqué, on a un passé qui est très contrasté, je dirais presque. Et tous les Colombiens, le problème, c'est que on est 50 millions à payer les conneries de peut-être une centaine ou 200 qui, à un moment, ont voulu faire les caïds. Aujourd'hui, je pense qu'on est 50 millions à essayer de changer l'histoire, de changer un peu cette image qu'on a. J'en fais partie. Et en arrivant à Paris, en arrivant en France, c'est vrai que quand je disais que j'étais Colombien.
À l'âge de 18 ans, quand même.
Ouais, j'avais 18 ans. Souvent, on parlait pas de café. On parlait pas des fleurs, on parlait pas des bananes ni des émeraudes.
On vous demandait de la cocaïne.
Voilà, exactement. On parlait tout de suite de cocaïne, on parlait tout de suite de narcotrafic. Et ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de qui on est. Je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on a ce tempérament. Il y a une phrase très belle d'un groupe qui s'appelle Calle 13 avec Toto Lamont Pocina. C'est plusieurs chanteurs d'Amérique latine qui ont fait une chanson magnifique qui s'appelle Latino America. Et cette phrase, elle dit que finalement, l'Amérique latine est un peuple à qui on a coupé les jambes, mais qui n'a jamais cessé de marcher. Et j'adore cette image, j'adore cette phrase parce que c'est vraiment tout nous. Quand on arrive dans les carnavals, quand on arrive voir une fête de village, on se rend compte que c'est des pays qui ont souffert, mais qui sourient tout le temps.
Et on le voit notamment à vos assiettes, à la joie qui se dégage, la générosité et l'enthousiasme coloré qui se dégage des assiettes. Et d'ailleurs, votre livre en est une très belle illustration avec de magnifiques photos de reportages et de recettes. Réhabilitation de la Colombie avec vous, évidemment, à travers notamment sa cuisine, cher Roan. Resituez-nous juste sur la carte de l'Amérique latine, la Colombie en deux mots.
La Colombie, c'est le premier pays de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que tout le monde voit un peu les États-Unis, derrière il y a le Mexique, toute cette chaîne de l'Amérique centrale. Il y a le Panama, mm-hmm. où on connaît très bien son canal. Et le premier pays qui fait un peu cette jointure, cette connexion avec l'Amérique centrale, c'est la Colombie. C'est à gauche, l'océan Pacifique, c'est au-dessus, la mer Caraïbe, donc on a un peu l'Atlantique, on a un petit peu tous les océans, on a les Caraïbes qui est d'une richesse monumentale, on a la cordillère des Andes, comme je le disais au début, qui se divise en trois, donc on a des étages thermiques à non plus en pouvoir, on a des glaciers, on a la plage, on a ce qu'on appelle les páramos, qui sont des étendues magnifiques à l'intérieur de la cordillère des Andes, avec une végétation qui est à tomber, on a Caño Cristales, qui est un tableau fait par les plus grands, on se croirait, franchement, si les grands peintres n'auraient pas été à Barbizon à l'époque, mais en Colombie, je pense qu'on aurait eu des pastels tout aussi magnifiques. C'est vraiment un pays avec une richesse, comme on le dit, hein, tout au début. On n'est pas riche en dollars, mais on est riche en paysages, on est riche en air pur, on est riche en...
Et donc riche par cette diversité de terroirs, hein, qui s'explique effectivement par la variété de côtes, par la variété de climat, la variété de relief.
Exactement, on parle souvent de cette ligne de l'équateur. Alors c'est drôle parce que quand on est en France, quand on est ici, on parle de saisonnalité. Mm-hmm. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de... Je savais pas ce que c'était, la saisonnalité. Parce que chez nous, en fait, les fraises, elles poussent toute l'année à une certaine hauteur, à un certain étage thermique. On a tout le temps des tomates, on a tout le temps des citrons, on a tout le temps des pamplemousses. Alors, c'est pas mieux, c'est différent. Mm-hmm. On n'attend pas avec impatience ces tomates ou ces champignons toute l'année. On les a toute l'année, on apprend à les aimer, on apprend à les apprécier tout au long de l'année. Les fruits. La richesse des fruits. Ça, il faut qu'on en parle tout à l'heure, parce que croquer dans un fruit colombien, c'est comme faire l'amour pour la première fois.
Waouh! Ah ouais, carrément. La cuisine de Colombie, alors ça, c'est une question, Juan. Est-ce que c'est comme presque, en ce qui concerne quasiment tous les pays d'Amérique latine, est-ce que cette cuisine est une mosaïque culturelle, culinaire, de savoir-faire et d'ingrédients avec des influences multiples, évidemment amérindiennes, mais aussi européennes, et puis ensuite africaines?
100%. Alors 100%, et c'est marrant parce que pendant longtemps, on s'est dit qu'en Colombie, c'était un peu triste, un peu pauvre et qu'on n'avait pas une gastronomie à vendre. Et finalement, il y a quelques chefs depuis quelques années qui se sont un peu intéressés dans la matière, notamment Jaime Rodriguez, qui est un chef à Cartagena, son restaurant Celele.
À Cartagena,
son restaurant est dans le top 50 des meilleurs restaurants d'Amérique latine. C'est un mec incroyable parce qu'il a approfondi un peu la matière. On s'est rendu compte que à l'époque, les Espagnols sont arrivés dans les bateaux, les conquistadors, et qui ont un peu profiter de nos indigènes qui étaient en culotte de feuilles de palmier en train de vivre la vie tranquille. On avait cette richesse donc déjà indigène, typique de nos terroirs. Les Espagnols qui arrivent avec ces bateaux chargés.
Avec tous les ingrédients emblématiques que sont le maïs, le manioc, on va évidemment en parler, hein, des maïs, ingrédients amérindiens.
Qui faisait partie, le plantain, qui faisait partie vraiment de nos ingrédients type traditionnels. Les Espagnols qui arrivent avec donc ces bateaux, avec les esclaves noirs qui arrivent avec une cuisine et leurs épices et leurs méthodes de cuisson. Mais il y avait aussi cette cuisine, il y avait des Arabes qui étaient dans les bateaux et qui arrivent aussi avec leur culture, avec le sésame, qui arrivent avec le tahiné, qui arrivent avec
le cumin peut-être, qui est paraît-il très présent.
Avec le cumin, avec les cacahuètes. Et c'est marrant parce que moi je me disais, comment ça se fait que quand j'arrive à Cartagena, il y a autant de restaurants arabes, il y a autant de restaurants de cuisine qui me semblent à cette cuisine sénégalaise, camerounaise, malienne. C'est marrant d'avoir ce métissage. Et quand on commence un peu à creuser, et ben finalement, c'est l'histoire. C'est l'histoire de cette conquête espagnole qui est arrivée et qui finalement nous a laissé une richesse culturelle avec tous les gens qui sont restés et qui ont partagé un peu leur cuisine et leur culture.
Juan, on identifie souvent la cuisine d'un pays à un plat national. Alors, je ne sais pas si c'est le plat national. En tous les cas, c'est un plat que vous aimez particulièrement et qui figure page 36 de votre livre. Et je sais même que le meilleur du monde, c'est évidemment celui de votre maman.
Nous allons préparer un ariaco. J'ai besoin de pommes de terre, de beau maïs, de la coriandre, des oignons, de la guasca. Vous avez de la guasca? Vous avez tout ça? Des avocats bien mûrs aussi. Il faut que vous m'aidiez à choisir des beaux légumes.
Ça vous convient?
Parfait.
Le secret le plus important pour le maïs est de choisir de gros grains et de les écraser comme ça pour voir s'ils sont juteux. Tu vois?
Ah oui, il faut qu'il rende du lait.
C'est ça. Et la guasca. La guasca est un produit national qu'on ne trouve qu'ici. C'est ce qui donne vraiment du goût à l'ariaco.
Un extrait d'un documentaire qui vous a été consacré dans la collection Planète Chef sur Canal+, en 2008, réalisation Stéphane Carrel. Et c'est un très beau film encore disponible en replay sur My Canal. Ariaco avec la jota. Hein.
La jota.
Et donc c'est cette soupe de pommes de terre, poulet, maïs et guasca, quesaco, Elvira.
C'est une herbe qui aromatise ce plat. Mais on a une auditrice qui nous demande surtout avant tout, j'adore l'ariaco, j'en ai mangé en Colombie, Christiane, mais où puis-je trouver de la guasca en France?
Alors aujourd'hui, il y a quelques épiceries qui font la guasca déshydratée. Moi, j'ai utilisé pour l'ariaco et ça peut s'approcher. Mm-hmm. Mais le problème de cette herbe, c'est que il la faut fraîche pour un ajiaco si on veut vraiment repartir en Colombie. Mais sinon, on peut la trouver dans certaines épiceries d'Amérique latine, Latino Market, quelques épiceries en séché, ça peut faire l'affaire.
Dans la recette de votre livre, Juan, vous préconisez peut-être de remplacer la guasca par l'origan frais.
Oui, l'origan qui s'approche un peu, mais qui est pas vraiment...
Avec des notes un peu camphrées, un peu de thym, c'est ça?
Ouais, la grosse feuille d'origan, quand elle est encore un peu fraîche et qui est gorgée d'huile aromatique, elle peut parfumer un peu cette soupe, mais on n'est pas. Vraiment, si je dois être honnête, guasca, c'est la guasca.
Il faut voyager en Colombie.
Vous demanderez à quelqu'un d'Espelette par quoi on remplace le piment d'Espelette.
Voilà, c'est sûr, vous avez raison. On apprend des choses étonnantes à la lecture de votre livre, Juan. La cuisine colombienne est caractérielle et pimentée. La cuisine colombienne est une cuisine épicée. Tiens, il y a même un mélange emblématique qui signe les saveurs de votre cuisine.
El triguisar.
El
triguisar.
Triguisar.
On ne comprend rien, t'as vu?
Non.
Triguisar.
Triguisar.
Non, en vrai, le triguisar, c'est une... Je vous le passe, si vous voulez le sentir. C'est un mélange d'épices. C'est un mélange, il y a de l'ail, il y a du cumin, il y a du roucou. Le roucou, c'est cette épice naturellement de couleur rouge qu'on utilise pour colorer les grands fromages hollandais. Tu vois, ces fromages jaunes, les mimolettes, les goudas.
Bien sûr.
On utilise ce roucou.
Graine de coriandre aussi, hein, je crois.
Il y a de la graine de coriandre, il y a du poivre, il y a du sel. C'est ces cinq épices. Après, chaque région a son petit truc de dire, moi, mon tréguisard, il est meilleur. Il est un poquito mejor parce que je rajoute les petits. Et chacun a sa petite astuce secrète. Mais la base, c'est ça. C'est de l'ail, c'est du roucou, c'est du cumin, c'est de la graine de coriandre, du sel et du poivre.
Justine, vous avez le nez dans la fiole.
J'adore. En fait, j'aime bien parce que le fait qu'il y ait plusieurs éléments, ça amène une complexité. Et tout ça est très chaleureux, un petit peu
voilà,
piquant.
Chaleureux.
On sent que, voilà, il va se passer quelque chose, quoi.
Il se passe toujours quelque chose avec le tréguisard.
On apprend aussi qu'il y a pas mal de points communs entre la cocina colombiana et d'autres cuisines d'Amérique du Sud. Alors on va voir que vous avez en commun avec plein d'autres voisins les ceviche, la sauce chimichurri, les tamales, mais il y a aussi les empanadas.
Ouais.
Et là, il y a dans nos assiettes ces petits triangles de pâtes farcies.
Alors ces empanadas qui sont... Comment l'expliquer en français? C'est un peu comme un chausson. Tu vois, ce fameux chausson aux pommes qu'on mange le matin, et ben nous, on le mange en salé. On le mange en salé. Souvent, la pâte en Colombie, elle est tout le temps faite à base de farine de maïs. Mm. On appelle ça la harina pan. C'est vraiment une farine qui est moulue assez fin.
Et pour le coup, on la trouve facilement dans les épiceries en France.
Ça, on peut le trouver assez facilement. J'ai essayé avec une polenta broyée très, très fin. Ça peut fonctionner aussi. Et en fait, cette harina pan, on va faire une pâte. C'est très simple. C'est du maïs. De l'eau. Alors certains, ils vont faire un peu de lait, certains, ils mettent un tout petit peu de beurre, mais c'est vraiment la base. Derrière, on va étaler cette pâte et on va mettre à l'intérieur une farce. La farce, elle dépend aussi de la région. Ce que vous êtes en train de goûter en face de vous, c'est à la volaille avec un peu de patate douce.
Qu'est-ce que c'est bon, ça ?
Et c'est délicieux. Et en vrai, ce que j'aime de cette recette, c'est que finalement, c'est un peu comme cette cuisine d'Amérique latine, c'est que chacun a sa recette, chacun a son secret, chacun a son épice. Là, je l'accompagne avec toujours un petit citron. D'ailleurs,
doit le mettre dessus ?
Ouais, alors la façon comme on déguste l'empanada, c'est souvent on lui coupe la tête,
une oreille,
une petite oreille. Une fois qu'on a le trou, soit on vient glisser le jus de citron à l'intérieur.
Ah oui, on sent que vous l'avez fait des milliers de fois. Hein.
Ah bah oui, mais je suis né avec.
Quelques gouttes qui tombent pile sur la farce.
Direct dedans. Et sinon, el ají de maní ou el ají tout court qu'on va venir tartiner. Et là, c'est toute une autre expérience.
Il y a toujours une sauce, toujours un condiment. Mmh. Harry des manies, autre chose.
C'est marrant de faire de la radio pendant qu'on mange, j'adore.
Mais ouais, c'est vraiment on nous reproche parfois de manger la bouche pleine. Parler de la bouche pleine, vaut mieux manger la bouche pleine. Hein.
Pour moi, c'est presque les Olympiades que je fais là. C'est tout un challenge. Et en fait, ouais, chaque sauce est un peu différente, pareil. En général, la base, c'est citron vert, coriandre, oignon. Et ça dépend de la région. On va trouver souvent du persil, on va trouver un dérivé du chimichurri. Mais... cette sauce ají accompagne toujours les empanadas.
Mais vous avez lâché le mot ají de maní, qui, moi, est une réelle addiction. Un truc extraordinaire. Goûtez ça, Elvira, vous allez voir. Définition de ají de maní, qui est une sauce emblématique colombienne.
C'est une sauce emblématique colombienne, c'est une sauce à base de cacahuètes. On détend, on va venir mixer des cacahuètes avec du jus de citron et du lait de coco. Oh, ça, c'est la base. Derrière, on l'agrémente. Il y a toujours un peu de piment, il y a toujours un peu de sel. Il y a des régions dans lesquelles on va rajouter un peu d'ail aussi également. Alors, certaines sont un peu plus liquides, certaines sont un peu plus épaisses. Ça dépend de l'utilisation. Il y a souvent une recette qui est tamal de pipiane. Les tamales, c'est une espèce de pâte qu'on cuit dans des feuilles de bananier. Et elle est accompagnée souvent de cet ají de maní. Alors, on va la faire beaucoup plus liquide. Et moi, j'ai ce souvenir d'enfance de voir ma sœur Guadalupe qui commence à mettre un tout petit peu de sauce d'ají de maní jusqu'au moment où on ne voit plus le tamal. Tu vois, c'est presque de l'ají de maní à la sauce tamal, tellement
surtout,
il en met.
Mais surtout que c'est un peu relevé, ça chauffe légèrement le palais, mais
c'est vraiment
il y a de la
délicieux.
Douceur, c'est délicieux. Hein.
Et on a un petit grain qui roule sous la dent dans la sauce, et c'est le même dans la farine de l'empanadas. Du coup, les deux se répondent, tout ça, explosion de saveur avec le petit citron, c'est... vraiment délicieux, j'adore.
Et comme Juan est généreux en plus, il y a la recette de ají de maní et de empanadas, avec d'ailleurs dans le livre un petit schéma qui permet de farcir et de façonner assez simplement ces chaussons qui sont vraiment, vraiment très, très bons. Tout ça, c'est sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Elvira Masson a pioché dans sa bibliothèque un essai culinaire qui va vous parler, cher Juan, d'un auteur originaire de Medellín.
On va déguster. Sur France Inter.
Alors, l'émission a démarré il y a quoi, 25 minutes ?
Oui.
Et celles et ceux qui ne vous connaissaient pas encore l'ont sans doute compris, Juan, vous êtes un cuisinier de la joie, de l'énergie positive, ce qui n'empêche en aucun cas la délicatesse et les émotions qui sont très présentes au fil des pages de votre livre, notamment, on l'a dit déjà, dans les très jolis textes écrits par votre sœur. De délicatesse et d'émotion, il est question aussi dans ce livre que j'ai entre les mains, c'est le Traité culinaire à l'usage des femmes tristes. C'est un livre publié en 2010 d'Hector Abad Faciolince. Né à Medellín, Medellín en 1958. Écrivain et journaliste, il est le fils d'Hector Abad Gomez, grande figure colombienne, médecin, travaillant dans les quartiers pauvres de Medellín, qui a consacré sa vie à combattre la misère et l'ignorance. Un homme d'un immense courage, mort assassiné par les paramilitaires en 1987. Hector Abad, fils, a écrit un livre magnifique qui raconte l'histoire de son père. Ça s'appelle « L'oubli que nous serons », qui est à la fois le récit d'un crime, la biographie d'un homme, la chronique d'une famille et l'histoire d'un pays. Cet éclairage dramatique rend son traité culinaire à l'usage des femmes tristes encore plus émouvant. Alors c'est un livre curieux, c'est une sorte de grimoire qui cite le poète Leopardi dans ses premières pages. De la même façon que l'air remplit l'espace entre les objets, la mélancolie remplit les intervalles entre un plaisir et un autre. Hector Abad nous guide dans ces intervalles comme un apothicaire cuisinier de l'âme qui prodiguerait ses remèdes tout en sachant qu'ils ne pourront pas grand-chose au fond. Au fil des pages de ce qu'il appelle son illusoire ébauche de sorcellerie, on glane des recettes ou des conseils. Alors au hasard, une tartine du pain de la veille, mise sur feu doux, saupoudrée de cette panella, de sucre brun, et agrémentée du jus d'une demi-orange pour nous rappeler que l'être humain peut être heureux et riche avec peu de choses.
Panella, c'est donc un dérivé de la canne à sucre, une espèce de mélasse.
Alors oui, c'est exactement ça, c'est une mélasse. On va prendre le jus de canne qu'on va monter en température et une fois qu'il est caramélisé, on va le travailler jusqu'au moment où il masse. On va le mettre dans des espèces de cubes pour faire des briques. Et ça fait des briques et les gens ne comprennent pas quand ils arrivent en Colombie. Qu'est-ce que c'est que ces briques? Eh ben, c'est du pur jus de canne exceptionnel avec une aromatique formidable.
Et c'est dans toutes les maisons colombiennes.
Dans toutes les maisons, on le boit chaud quand on est malade, on le boit froid quand on est en forme. Et c'est du sucre pur, donc ça donne de l'énergie avec un peu de citron. C'est juste un régal.
Au hasard encore, une savante digression sur les différents apprêts du sancocho, le pot-au-feu colombien. Ouais. Pour essayer de comprendre les morceaux que l'on préfère, ce qui pourrait nous aider à déterminer quel amoureux il faudrait y conduire. Ou tout simplement, la règle de cuisson du chou-fleur pour accompagner sa peine. Je vous lis. Pour déguster ta tristesse, je te recommande un plat mélancolique. Le chou-fleur en brume. Il s'agit de cuire cette fleur blanche, triste et consistante à la vapeur. Lentement, avec cette odeur identique à la laine qui s'échappe de la bouche dans les lamentations, il cuit et se ramollit peu à peu. Quand il est encore enveloppé de brume, rajoute à sa vapeur fumante un peu d'huile d'olive, de l'ail, du poivre et sale avec les larmes qui t'appartiennent. Savoure-le lentement en y plantant ta fourchette. Pleure et redouble tes larmes. Cette fleur finira par absorber ta mélancolie sans te dessécher, sans te laisser en paix, sans te voler la seule chose qui t'appartienne en ce moment, la seule chose que personne ne pourra plus t'enlever, ta tristesse, mais pénétrée du sentiment que tu as partagé avec cette fleur qui ne peut faner, avec cette fleur absurde, préhistorique, avec cette fleur que les fiancés ne demandent jamais chez le fleuriste, avec cette fleur de chou que personne ne met jamais en pot, avec cette anomalie, avec cette tristesse fleurie, ta propre tristesse de chou-fleur, de plante triste et mélancolique.
Sacré texte.
C'est joli, hein. Ouais. Et paradoxalement, de toute cette mélancolie, il sort beaucoup de joie et l'envie de cuisiner. C'est un texte magnifique. Le traité culinaire à l'usage des femmes tristes chez J.C. Lattès, d'Hector Abad, qui est par ailleurs un grand connaisseur de la chose culinaire.
Vous connaissiez, Juan?
Je connais l'écrivain. J'ai pas lu le traité culinaire, mais je trouve que c'est un mec qui a fait beaucoup de bien, parce qu'il a été traduit en beaucoup de langues, il a été vachement exporté, et c'est aussi un ambassadeur de la Colombie qui essaye de changer un peu l'image de notre pays.
Vous allez avoir quelques instants de pause musicale pour nous préparer un ceviche de camarones.
Exactamente como a Cartagena.
Voilà, comme à Cartagena, on va se régaler. Allez, au boulot, sur le plan de travail, dans le studio dont on va déguster, et on se retrouve juste après ça.
VIP rebaño, baby my races from Casablanco. Me gusta su sonrisa, aunque me haga daño. I live like sopranos, italianos. I've been el chico for 50 años. Me gusta su culazo periando. Le das trabajo, le gusta este tamaño. Dale papi champaño. Either I slow down the trip, I speed up the visa. Man, I won't leave ya. Grab a Lisa, bring her to Ibiza. Introduce you to Richie Akiva. My broski bonito, he needs a bonita. Africa, bien loquita. Gracie por mi amor, mi amiga. Ella sabe que está bien rica.
¿Usted se cree que yo quiero que me invierta mi dinero en la 42 donde la gente está bailando dembow?
Ay, ha, ay, ay, ay. Ay, santo Dios mío, casi cale. En RD tanto mis cueros, en PR todas las yales. La mía se roba el show si sale. Todos quieren ser yo, pero no le sale. En casa de campo, Chucky en México ando bélico. Baby, bajo del tecomético. Tres patas encima, ponme la esquima. Bajen la luz y cierren la cortina. Que no quiero video, estoy harto de la foto. Estoy harto de todo el mundo, menos de ese toto, menos de ese toto, Ey. Botella de champaña, yo la descolché. Me puse bellaco cuando la escuché. Decirme papi, entró la Porsche. Fuck, mami, holy shit. Qué rico tu chinga. Las boris me piden bicho, las cubanas quieren pinga. Fuck me so cool, me dice la gringa. Mami, te pasaste. Ey, la baby tiene marido y no me dijo nada. Tranquila, eso no es nada. 200 botellas y por ahí viene más. Por ahí viene más. La baby tiene marido y no me dijo nada. Tranquila, eso no es nada. Mucha bebecita y por ahí viene más. Por ahí viene más.
Un fromage.
Drake avec Bad Bunny, bah, ce chanteur portoricain n'a échappé à personne, hein, et surtout pas aux Colombiens et aux Américains du Sud. Phénomène absolument mondial avec le titre Gently. Au menu de cette émission, la cocina colombiana de Juan Arbeláez, qui est auteur de Recuérdame, carnet de cuisine de Colombie aux éditions First.
On va déguster. Sur France Inter.
Cher Juan, il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui veulent en savoir un peu plus sur votre vie et qui ne comprennent pas, qui voudraient en savoir plus sur ce choix de la France. À 18 ans, vous avez donc travaillé et appris le métier auprès de grands chefs, Éric Briffard, Éric Fréchon, Pierre Gagnaire, et vous n'avez jamais quitté la France.
Bah, je venais à la base pour 2 ans. J'ai pris mes valises, j'ai dit à ma mère que vous entendez souvent dans le
documentaire.
Dans le documentaire de Canal Plus et qui me faisait le meilleur ajiaco du monde. Je partais pour 2 ans pour me former, pour apprendre un peu la cuisine, apprendre le métier. J'arrive ici et je sens une espèce d'adoption. L'adoption, et il y a un pays qui me donne un métier, qui me donne du savoir-faire, qui partage avec moi des produits exceptionnels, qui partage avec moi des producteurs exceptionnels. Et je tombe absolument sous le charme. Et finalement, je baisse un peu la tête, je travaille chez Gagnaire, je travaille avec Eric Fréchon au Bristol, Briffard au Georges V. J'ouvre mon premier resto, je passe à Top Chef, il y a 2-3 aventures qui m'arrivent. Et finalement, je me sens un peu redevable. Et j'ai envie de rendre à la France aussi ce qu'elle m'a donné, de la remercier de ce métier, de cette passion aussi magique qui me permet de vivre aujourd'hui. Et je décide de rester. Ça fait maintenant 16 ans que je suis là. Et je suis pas sûr d'être tout de suite prêt de repartir.
Ça ne vous empêche pas de rentrer régulièrement au pays, au moins une fois par an, je crois.
J'ai toute ma famille qui est là-bas.
À Bogota ?
À Bogota. Et quand vous venez de Colombie, vous voyez que... Vous vous rendez compte que la famille est très importante. J'ai une mère poule, une mère canard qui est tout le temps en train de savoir comment on va et comment on est. Et du coup, il faut absolument rentrer une fois par an. En général, c'est à Noël pour recharger les batteries et revenir plus fort.
Mais alors, concernant vos racines colombiennes, vous avez fait un cooking out tardif. Vous les avez pas mis tout de suite en avant, vos racines colombiennes au départ.
J'adore ça, un cooking out.
Vous étiez un peu l'élève parfait, très bon technicien, formé en France. Il y avait évidemment quelques influences latines et pimentées dans votre cuisine, mais vos recettes colombiennes, vous les faites désormais partager à Basurto, qui est un restaurant festif, hein.
Oui, c'est un restaurant festif dans le 6e, 5 rue de l'Ancienne Comédie. Et c'est vrai que, alors quand je suis arrivé en France, il y a une espèce de... Tu te sens un peu l'étranger, tu te sens un peu le différent, tu te sens... Donc, t'essayes de cacher un peu tout ce qui peut faire du contraste, faire du bruit, être différent. Tu le caches. Et pendant longtemps, j'ai baissé un peu la tête et j'étais le bon soldat. Et à un moment, quand on commence un petit peu à chercher sa signature, à créer des plats, bah moi j'ai cette chance d'être différent finalement. Ce qui était un peu ma faiblesse devient ma force et je puisse dans mes racines pour savoir quelle est vraiment mon identité. Et c'est là où au fur et à mesure, ma cuisine elle commence à avoir ses contrastes, ses acidités, ses piments et ses épices. Et quelques années plus tard, j'ouvre du coup un restaurant vraiment qui rend hommage à cette cuisine colombienne.
Cocktail et tapas d'inspiration colombienne et latine, je crois même que vous installez à la montagne.
Oui, exactement. Grâce à une année et demie de succès, ça se passe très bien. On m'appelle à Tignes, l'hôtel Initio, qui a dit que à Tignes fait très froid pendant la saison et qu'il faut que quelqu'un réchauffe un tout petit peu le dance floor. Et on est arrivé avec notre cuisine du coup colombienne, Basurto à Tignes.
Est-ce qu'il y a à Basurto à Tignes, mais également à Paris, des arepas?
Il y a des arepas et
qu'est-ce que c'est des arepas?
Bah, les arepas, c'est notre pain. C'est notre baguette, c'est notre pain de campagne, c'est un peu cette... il nous accompagne un peu partout, alors souvent il y a du fromage, des fois il n'y en a pas, des fois c'est frit, des fois c'est cuit au four, des fois c'est fait au barbecue. En fait, nous on n'a pas de farine de blé à la base, ça c'est arrivé avec le temps. Nous, notre farine c'était le maïs. Et qu'est-ce qu'on faisait? Tout simplement, on faisait un mélange avec du lait, avec de l'eau, un peu de beurre ou de l'huile. Souvent on mettait un peu de fromage pour le rendre un peu plus gourmand et on cuisait ça au grill. Je vous ai ramené une petite arepas. Alors moi, je préfère quand elle passe un peu au barbecue, ça lui donne un peu de caractère et on finit avec un peu de beurre fondu par-dessus.
Wow.
Mais c'est notre pain, c'est moelleux, c'est fondant, c'est généreux. Il y a une mâche qui est presque un oreiller.
Moi, j'allais dire un matelas de lit de palace, en fait.
Et on a la douceur lactée.
Je passe pas non plus ma vie dans les palaces, mais c'est ce que j'imagine.
Ouais.
On a une douceur lactée quand on fait cuire le lait chaud et que tout ça est un peu presque sucré. Je trouve qu'on a un peu cette douceur-là dans le petit pain. Et en fait, c'est un disque qui est quand même un petit peu épais et qui tient bien dans la main. Presque en pression, on pourrait le mettre dans les poches pour toute la journée, quoi.
C'est vrai que cette arepas, on peut la manger à tout moment et ça a été fait pour que ça soit pratique, pour prendre de l'énergie. C'est
mais il y a fermentation?
Il y a dans la farine. Souvent, on utilise une fermentation dans la farine, mais c'est pas obligatoire.
D'accord.
Il y a plusieurs régions qui l'utilisent. Là, aujourd'hui, l'acidité qu'on sent, c'est apportée par le fromage, pas forcément pour une fermentation, mais il y a des régions qui le font.
Et d'ailleurs, l'auteur que vous évoquez, Hector Abad, a un avis très concerné, se sent très concerné par les arepas, justement.
J'ai trouvé un article, Hector Abad a écrit sur le média en ligne Granta, dans lequel il parle de différents produits qui sont, selon lui, emblématique un peu du syncrétisme culinaire.
Oui.
Il parle des arepas, ce pain quotidien des Colombiens. Et c'est drôle, il est un peu doux amer. Il n'y a rien de plus décevant que d'avoir un invité étranger chez soi et de ne pas réussir à lui faire comprendre la subtilité entre les différentes variétés d'arepas. On voudrait l'alerter sur les nuances délicates entre une arepa de pelao, donc cuite dans la cendre, une de chocolat, maïs frais, une de maïs jaune, une autre de maïs blanc, une autre de maïs moulu avec du fromage ou mélangé avec du yuca. Il dit c'est pas évident à faire comprendre ça à quelqu'un qui n'est pas né en Colombie, en fait.
Donc il y a arepas au pluriel, évidemment, parce qu'il y a une grande diversité autour de ce pain.
Et c'est pour ça que, pour moi, le meilleur exemple, c'est parler de pain. Parce que quand on fait en France le pain de campagne, le pain de céréales, le pain au maïs, il y a la baguette. Et la baguette n'a pas le même goût si on la cuit dans une forme différente de baguette. Le pain au seigle, et quand on va goûter des fermentations qui sont faites au levain, ou des fermentations avec des levures boulangères, c'est pas pareil. Et bien l'univers de l'arepas est exactement pareil, c'est comme ça. C'est que il y a plein de farines différentes, il y a plein de méthodes de cuisson, et on les accompagne souvent aussi avec des assaisonnements différents.
On parle donc d'une belle galette moelleuse, vous nous la garantissez, sans gluten.
Celle-là, 100% sans gluten.
Donc intéressant.
C'est 100% sans farine de maïs, donc c'est délicieux pour ceux qui cherchent une alternative à la farine de blé.
Et je suis en train de m'étouffer quasiment. Il y a plusieurs recettes d'arepas dans le livre de Juan, et il y en a évidemment une sur notre site. Il y a beaucoup d'agrumes, de citron vert, de lime pour être précis. Preuve que il y a beaucoup de fraîcheur et de vivacité dans la cuisine colombienne. Et ben si vous aimez les agrumes, cher Juan, je n'en doute pas, la chronique de Justine Knapp va vous faire saliver.
On va déguster sur France Inter.
Alors, une question pour commencer. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce que j'ai versé exactement dans vos verres? C'est le verre de gauche.
Verre de gauche. Alors.
Oh, c'est bon. Bon, j'ai un peu divulgaché, mais complexité, quelle finesse, quelle fraîcheur fruitée.
Et ça vous fera peut-être penser à une famille d'ingrédients adorés de la cuisine colombienne qu'on mange en sucré, en salé.
J'ai un peu vendu la mèche.
J'ai un petit peu de... Alors, je sais pas si je me trompe, mais j'ai une note légèrement anisée et je sais pas si...
Alors, c'est pas de l'anis.
C'est pas de l'anis.
Une famille d'ingrédients.
Une famille d'ingrédients.
Sur les agrumes.
Et les agrumes.
Ah ouais, sur les agrumes, ok.
Voilà, il y a trois agrumes. Alors, c'est une eau de vie. On a du citron, du cédrat et de la main de Bouddha. que j'aime, moi, dans cette eau de vie, c'est qu'elle ne nous crispe pas. Non. On n'a pas cette brûlure de l'alcool. Hein. Et vous pouvez me faire confiance sur ce point, parce que j'ai tendance à craindre la force des spiritueux. Là, on a surtout la jutosité du quartier de citron, presque l'acidité hein, qui viendrait avec par association. Et il y a une précision de parfum qui vaut l'huile essentielle, celle qu'on sent quand on plante son ongle dans la peau des agrumes. Juste un tout petit peu de sucre pour enrober les amers tactiles des zestes. Cette eau de vie, elle a été pensée comme un limoncello, mais sans sucre ou presque. Donc limoncello, des agrumes macérés dans l'alcool. Bon, là, sauf le cédra qui a été distillé à cause de son amertume. Le nom de la bouteille, Cedracello.
Très bien trouvé.
L'étiquette dit « il fait beau, il fait chaud » avec une image de tongue, parce que la distillatrice aime le boire en été. Je trouve que c'est aussi une boisson d'hiver, un concentré de citron digestif pour la fin de repas copieux. La distillatrice, c'est Anne Fell, qui n'est pas italienne, mais ardéchoise. Elle est accrochée au contrefort des Cévennes d'Ardèche, du moins sa maison. Et elle récupère ses citrons, ses mains de Bouddha et ses cédras juste à côté de chez elle, chez son voisin Nelton, des Jardins de Latine.
Ce sont donc des agrumes qui ont poussé et qui ont été cueillis en Ardèche.
Improbables agrumes, une toute petite production bio en terrasse qui parvient à mûrir grâce à la chaleur des pierres. Alors pour la macération, Anne Fell n'utilise pas d'alcool industriel, mais elle fabrique le sien à partir d'une autre boisson à base de raisins ardéchois.
Ah, je vous vois venir, on va parler vin alors.
Je vous explique. Ardèche. Pas d'autoroute, pas de gare, un vaste espace naturel sans fragmentation. Pour aller chez Anne Fell, il faut s'enfoncer sur une route sinueuse qui grimpe, traverse un ou deux villages en pierre, puis plus rien, forêt de pins. À tel point que je me suis dit, tiens, j'ai pris un chemin de traverse dans les bois, mais non, c'était bien la seule route. On arrive chez elle, les vapeurs d'alcool de l'alambic saisissent. Et sur son étagère, il y a même une petite réplique, un mini alambic en cuivre pour faire ses essais. Et puis dehors, après un saut de fossé, un saut de ruisseau, 4 hectares de vignes percent la forêt. Son mari est vigneron, Laurent Fell, mât de l'Escarida. Le projet des eaux de vie, il est né après une année de gel ravageuse en 2017 pour sécuriser économiquement le couple.
Donc les agrumes du voisin et une base de vin naturel.
Voilà, c'est ça. Anne distille à petit feu des vins naturels manqués. Les vignerons du coin l'appellent quand ils ont sur les bras une cuve qui ne leur convient pas, qu'ils ne mettront pas en bouteille. Voilà les risques de la vinification sans coup de pouce œnologique. En Ardèche du Sud, à quoi ressemble la carte vigneronne ? Eh bien, la viticulture relève presque totalement des caves coopératives. Et le reste, minuscule, ceux avec qui Anne travaille, c'est un noyau solidaire d'une vingtaine de vignerons, dont une partie est sortie de la cave coopérative pour valoriser son travail en bio, en méthode nature. Moins de 5 hectares, hein, pour la plupart rikiki, des prix volontairement maintenus bas par le groupe, autour de 10 euros. Et ces vins se relocalisent. Jusque-là, ils étaient plus habitués à être totalement exportés. Et depuis quelques années débarque une nouvelle cuisine ardéchoise, une dizaine de restaurants qui ouvrent ses vins à table et qui volent des tours. Le mot est sciemment choisi. Je pense notamment à la dernière en date, la délicieuse Maison Hayon, installée depuis cet été près d'Aubenas. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Au-delà du fait que je cherche à vous donner faim et soif,
et c'est plutôt réussi.
Le mouvement des vins naturels a inspiré le monde des eaux de vie. Anne Fell est signataire du manifeste de la Niaule naturelle, comme 63 collègues, manifeste consultable en ligne. Alors ces distillateurs s'engagent surtout à ne pas bidouiller leur eau de vie, pas de colorants artificiels, de glycérine pour la structure, d'exhausteurs de goût, de filtration, etc. Juste des ingrédients bio de producteurs voisins qu'on connaît et un bel alambic en cuivre.
Et on s'intéressera d'ailleurs à cette très belle tendance des eaux de vie naturelles dans les prochaines semaines. Le prix du Cedracello ?
35 euros les 50 centilitres, à ouvrir cet hiver pour les repas festifs et à sauvegarder jusqu'à l'été pour le plaisir de le découvrir versé sur de la glace pilée, histoire de le détendre encore un peu.
Toutes les infos sont à retrouver sur le site de l'émission. Et en parlant d'Ardèche, Justine Vignoblas est méconnue. Vous signez un article sur ces vins d'Ardèche avec vos cuvées coup de cœur à paraître prochainement dans la Revue du Vin de France. Mais attendez, là vous débouchez encore une bouteille.
Eh ben, on a tellement parlé vin que je trouvais ça dommage de s'en priver. Donc j'ai apporté le Sauvignon de Laurent Fell, un Sauvignon ardéchois. Les amateurs le connaissent bien.
C'est donc le mari d'Anne Fell, hein.
Exactement.
Qui fait le Cedracello.
La bouteille est à 12 euros. C'est un jus plein, savoureux, oh, bon. Aussi et... citronné que l'eau de vie d'Amstel.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, est-ce que c'est psychologiquement, on était un petit peu dans les dans l'univers des agrumes.
Deux évocations différentes de la saison des agrumes.
Il y a une très belle vitalité dans
Vous aimez ?
Il y a de la vibration.
C'est incroyable.
Vous aimez ça ?
Ah ouais, c'est incroyable.
Laurent Fell, Vin d'Ardèche.
En fait, ce que j'adore, c'est ce côté très salival quand on met en bouche.
Exactement.
On a vraiment le côté extérieur de la langue qui se met tout de suite en action. On a presque envie de manger.
Et comme la vie est bien faite, et ben justement, vous ne croyez pas si bien dire, vient d'apparaître sous nos micros une spécialité colombienne qui pourrait très bien s'accorder avec le vin blanc de Laurent Fell, Ardéchois, chère Justine. C'est Elvira, la bouche pleine, qui va nous commenter ce plat. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît ?
Je viens de porter la fourchette à ma bouche.
On avait rarement vu des ceviches de cet aspect-là.
Ouais,
Elvira.
C'est magnifique, une crevette crue, une sauce tomatée acidulée, c'est d'une fraîcheur incomparable, c'est iodé, c'est frais, c'est délicat, c'est magique ça.
Oh, c'est trop gentil. Alors, ce qui est marrant de cette recette, c'est qu'à la base, c'est des crevettes qui cuisent dans le citron vert pendant très longtemps, et avec l'arrivée des Américains à l'époque, et leur sauce, quelqu'un dans les Caraïbes, à Carthagène, a décidé de mettre un peu de ketchup dedans. Alors ce ketchup venait lier un peu ce citron, apporter un peu de sucre, un peu d'onctuosité, et en fait moi, en réfléchissant à cette recette traditionnelle, je me suis dit, quel est notre ketchup à nous ? Notre ketchup à nous s'appelle ahogao. L'ahogao, c'est une sauce tomate, à base d'oignons, de l'ail, pas mal de tomates. Nous, on récupère les tomates en été, on les fait en conserve, et ça derrière, on pasteurise, et on peut l'utiliser toute l'année. Et l'élément principal de cet ahogao, c'est ce mélange d'épices qui est très important.
Tréguissa.
Yes. Bravo.
D'ailleurs, moi, j'ai déjà mis une option, j'embarque la fouillole, si vous voulez bien.
C'est pour toi.
Merci,
c'est pour toi. Allez,
attrapez.
C'est pour toi en rugby. Et oui, c'est vrai que cette recette, donc du coup, d'ahogao va remplacer ce ketchup qu'on a l'habitude de déguster avec ce cocktail de camarones, ce ceviche de camarones face à la plage dans les Caraïbes.
Prends le pied.
Beaucoup de citron vert, beaucoup de coriandre.
Oui.
Et le tour est joué.
Parce que cilantro, la coriandre fraîche qu'on trouve aussi beaucoup dans la cuisine mexicaine, vous en savez quelque chose, vous y avez voyagé récemment.
Mais d'ailleurs, c'est un plat qui a une parenté avec des cocktails de crevettes qu'on mange beaucoup sur les plages mexicaines. Il y a un peu cette recette dans toute la
Dans toutes les Caraïbes.
Oui, c'est vraiment une recette caraïbe.
C'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, on a une mixité. Moi, j'adore. C'est pour ça que j'aime l'Amérique latine, c'est que quand on croise on appelle ça des frères, nous, tu vois, un frère du Mexique, un frère du Venezuela ou un frère, il y a toujours quelque chose qui nous ressemble ou qui nous bataille.
Ouais.
Parce qu'avec les Vénézuéliens, c'est la guerre pour savoir qui a inventé la repa. Donc les Vénézuéliens sont toujours en train de dire ça. Nous, évidemment, on sait que c'est nous. Mais voilà, ça fait partie un peu de ces historiques. Un peu comme en Méditerranée avec le houmous. Voilà, c'est pareil en Amérique latine.
Et puis, ce petit pain aussi, qui va être, à mon avis, un truc ultra réconfortant. Ça ressemble à une gougère.
C'est une gougère. Alors mais oui, c'est vrai que c'est une gougère. Nous, en Colombie, on les fait de différentes façons. Alors le pan de yuca, tu le reconnais parce que on le fait un tout petit peu tordu, un peu comme des cornes.
Ah, c'est chewy, hein, comme diraient nos amis anglo-saxons.
Moi, vraiment, je pense que tu pourrais faire. Alors sur Instagram, on parle de cette espèce de food porn, de ce mouvance un peu sexy qu'on peut voir dans certains mets. Et ben là, tu vois, quand tu ouvres et t'étires ce pan de yuca, t'as cette texture extrêmement élastique.
Quel bonheur.
Qui est donné grâce à la farine de manioc.
Comme le pão de queijo brésilien.
C'est comme un pão de queijo, c'est exactement la même chose. Ici, on a une farine de manioc fermentée.
Mm-hmm.
Et cette farine de manioc apporte une certaine acidité. Ce qui est génial, c'est qu'on a cette élasticité qui est formidable. Mm-hmm. Et pareil, on n'a pas de gluten. C'est 100% farine de manioc.
Ça, c'est votre truc,
fromage.
C'est ma cam. Addictif, quoi. Ouais.
Elle a les yeux qui tourbillonnent tellement elle aime ça. Non, c'est quand même un truc de malade.
Un deuxième pour toi.
Et alors, dans votre livre, vous avez été assez discret, pas dans votre livre évidemment, mais plutôt sur ce plateau.
Merci.
Surtout le chapitre des postres, des desserts.
Ouais.
La Colombie, on a parlé de la panela, qui est cette fameuse, ce sucre de canne, on va dire, réduit et caramélisé. Il y a quand même des desserts en Colombie, rassurez-nous.
Alors, il y a des desserts, il y a pas mal de desserts, c'est juste que, alors ce livre était un premier jet. Mm-hmm. Quand j'ai commencé un peu à parler avec les éditions de faire un livre sur toute la Colombie, et que je leur ai dit, ça va me prendre 2 ans et ça va faire 780 pages, ils m'ont dit, doucement, ça on va le faire avec François-Régis Gaudry, et puis on va déguster la Colombie. Je lâche ça comme ça.
Co-signé avec Juan.
Le gars, il est venu, il fait ça pour moi, il signe son prochain contrat. Non mais en vrai... En vrai, c'est un pays qui a une diversité monumentale, qui a une richesse de dingue. Il a fallu faire des choix. Donc, à un moment, vous le voyez, c'est un livre qui est quand même assez
consistant.
Épais, consistant. Et quand on a fait sur les desserts, on n'est pas des professionnels de la pâtisserie et des choses sucrées. J'ai mis vraiment ces emblèmes, c'est la coca, c'est ce coco râpé avec un peu de panela caramélisé qu'on va faire en petites galettes. C'est notre cookies à nous. Tu vois, c'est cette cookies qu'on, en sortant de la plage, quand on a passé sa journée à l'océan, qu'on a la bouche un peu salée, il y a cette maman qui passe avec sa cocada. Et tu croques dedans et t'as l'impression d'être au paradis.
Exactement. Et on observe d'ailleurs, on se le disait avec Elvira en préparant cette émission, que la Colombie devenait une food destination, une destination gastronomique incroyable. Il y a beaucoup d'influenceurs, de journalistes qui y vont, preuve qu'il y a un patrimoine à explorer. La bouche pleine.
Le prochain, c'est toi.
C'est ça, je vais y aller. Alors là, je peux vous dire, on va y aller ensemble d'ailleurs. À vous de nous redonner les références de votre livre, Juan.
Bah, ça s'appelle Recuerdame, c'est aux éditions First, les photos par le photographe du dimanche, Apolline qui a fait les illustrations qui sont juste, je trouve, incroyables. Pour moi, c'est le premier livre un peu sérieux que j'ai fait, parce que vraiment, c'était pour moi très important. C'est la Colombie.
Il vient du cœur et accessoirement de l'estomac, ce livre. Merci beaucoup, Juan, d'avoir ensoleillé notre émission. La semaine prochaine, au menu, champagne. Quel est son juste prix? Quel est l'impact du réchauffement climatique sur cette boisson? On vous dit tout. À dimanche prochain.